Bonjour, chacun, chacune. Vous allez bien? Merci, Marcos. Cette saison, à la Servette, on fait une série un peu sur les annonces de Noël dans l'Ancien Testament, qui date bien avant. Donc, on va prendre un passage ce matin dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, donc je vous invite à trouver dans vos Bibles le livre d'Ésaïe. Chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, et je vais lire les premiers 16 versets. Sinon, je mets aussi le texte sur le PowerPoint. Ça marche. Je vais lire. Ésaïe 7. Il arrivera du temps d'Akaz, le fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekah, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais ne put plus l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de bois fulmant, devant la colère de Retsin de la Syrie et fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, car Damas est la tête de la Syrie et Retsin à la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. La parole de Dieu. Alors nous avons pas mal de choses autour de nous dans ce mois de décembre pour nous rappeler Noël, non ? Des lumières en ville. Vous aimez les lumières sur votre maison? Des sapins, des cartes avec les versets bibliques. Parfois des scènes un peu de Bethléem avec les crèches. Beaucoup de choses qui nous aident à se rappeler de Noël. Hein? Alors, mais est-ce que c'est facile ou pas? Dans ces mois de décembre, est-ce que c'est facile de revenir au vrai sens, au sens que la Bible donne à Noël? Et ce que je trouve intéressant ici, on a une annonce de Noël 700 ans avant. Et c'est un entretien personnalisé pour le roi Akaz qui parle d'une réalité qui va se passer dans sa vie, mais qui va avoir un parallèle avec ce qui va se passer à Noël et qui est pertinent pour nous tous. Et le roi comprend rien. Le prophète Ésaïe, envoyé de Dieu, est... Il voit, mais il ne capte pas. Il écoute, mais il ne comprend pas. Et si c'est le cas pour Akaz, vous savez, c'est le cas aussi pour nous. Nous pouvons être entourés par plein de rappels de Noël. Vous pouvez les voir, les lumières, les cartes, les crèches. Mais il ne saisit pas le vrai sens. Et du coup, je prends ce matin, on regarde cette histoire dans l'Ancien Testament avec Akaz et Ésaïe pour nous aider, nous, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour vraiment saisir le vrai sens de Noël. Et pour ça, je voudrais voir dans trois temps la peur de ce roi, le cœur de ce roi, et après le signe de Dieu. Vous voyez en verset 1, le roi Akaz, le pays avait connu une grande période de stabilité. Vous voyez verset 1, le temps d'Akaz, fils de Jotham, fils de Ozias. Alors Jotham et Ozias, c'était relativement les bons rois, et une stabilité dans le pays. Et d'un coup, pour Akaz, une guerre se déclenche. Et ça va vraiment quelque chose de connaître la paix, de vivre la paix, année après année, Noël après Noël, et puis d'un coup être confronté avec la guerre. Là, on ne connaît pas. Hein, notre génération, je pense qu'il y a certains ici, vous avez peut-être des souvenirs de tels bouleversements qu'on a l'annonce de guerre. Voilà ce qui s'est passé. C'était la menace des Assyriens. Une nation très grande, très puissante, très redoutable, qui commence à s'intéresser aux nations autour d'Israël. Alors deux nations, le royaume d'Israël, dans ce texte appelé les Éphraïm, parce que c'était une tribu, et le parti de Damas, les Syriens, voulaient se mettre en coalition, mettre en groupe pour se défendre contre les Assyriens. Et donc ils sont mis à pression sur Judée, sur Jérusalem, de rejoindre leur coalition pour se défendre contre la menace assyrienne. Mais ce roi, Akaz, il n'a pas confiance dans ses voisins, ils sont trop petits, ils ne vont pas arriver à se défendre contre les Assyriens, donc il dit non. Et du coup, les deux rois disent, ok, Akaz, si vous n'acceptez pas notre offre, on va débarquer chez vous, on va vous supprimer, on va mettre un roi de notre côté qui va travailler avec nous. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont embarqué dans le pays, et c'était une catastrophe pour la Judée. On voit dans deux chroniques, dans un jour, 120 000 hommes étaient tués, les plus vaillants. Désastre catastrophique grave. Et maintenant, dans ce texte, le roi apprend qu'il vient assiéger la ville de Jérusalem. Alors, quelle est la réponse ? Panique totale. Belle image, hein? Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous avez déjà passé dans une forêt, et typiquement les arbres sont grands, sont forts. Après, tu passes dans une forêt quand il y a un orage, mais fort, et tu vois que les arbres bougent comme la paille. En fait, je me souviens une fois, j'étais gamin, je me viens grimper dans les arbres, je suis monté très haut dans un arbre. Et j'avais l'impression que c'était bien solide, des belles branches, j'étais bien. Et d'un coup, il y avait un bon coup de vent. Vous vous souvenez quand vous étiez gamin? Vous avez déjà fait cette expérience? Très haut. Et vous savez ce qui se passait? L'arbre bouge, ça fait... Et d'un coup... La branche qui avait l'air bien solide, tu vois le sol par terre, ça se déplace. Tu dis, oh là là, j'espère que ce vent ne va pas être plus fort. Et là, j'avais l'estomac qui faisait des flip-flops, et je suis descendu assez rapidement, trouvé dans la maison, par terre, où je me sentais en sécurité. Et bien, c'est la réalité dans nos vies. On va être comme Akaz. Connaître des générations de paix, stabilité. Et d'un coup, ça peut tout changer. Hein. Il faut juste être confronté avec un ennemi qui est bien plus fort que nous. Et d'un coup, nos cœurs peuvent être complètement déstabilisés, agités comme les arbres. Et avant, ce qu'on pensait qui était bien solide, cet arbre, cette branche, d'un coup, on voit que ça bouge. Et je pense que c'est un rappel fort pour chacun de nous. Si on est confronté, où est-ce qu'on va trouver la sécurité pour notre cœur? Vous savez, l'arrière-grand-père d'Akaz, c'était le roi David. Et regarde ce qu'il a écrit dans les psaumes. Il a dit « Je ne crains pas des milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Il me connaît même la même situation. Il dit « Moi, je ne crains rien. » Il dit « Mon cœur est affirmé. » Psaume 57, c'est dans une situation terrible dans la vie de David. Il dit « Mon cœur est affirmé, oh Dieu. Mon cœur est affirmé. » Alors pourquoi la différence entre le roi David et le roi Akaz? David savait que Dieu était avec lui. Dieu était son bouclier. Dieu avait fait les promesses. Dieu était avec David. Et avec cette assurance, David a pu dire, moi je peux être assiégé par les milliers de personnes, mon cœur est affermi. Et quand toi et moi, on est confrontés par un ennemi bien plus fort que nous, c'est ça qui compte, hein? C'est ça la question la plus pertinente. Est-ce que Dieu est avec moi? Sur Akaz, il était confronté finalement par sa mort, non? Les deux rois, ils voulaient supprimer. Et à l'époque, ça ne rigolait pas. Hein? C'était... Il est confronté avec sa mort. Et la question qui compte, est-ce que le Dieu vivant est avec moi ou pas? Il n'est pas sûr et son cœur est agité comme les arbres de la forêt. Ça, c'est la peur du roi, mais regarde maintenant le cœur. C'est intéressant comment Dieu réagit. Dieu est vraiment bon envers Akaz. On voit ailleurs qu'il ne suivait pas les commandements de l'Éternel. Il n'était pas vraiment un bon roi, mais Dieu, dans sa grâce, il envoie son prophète Ésaïe à la rencontre. Et il dit, va. Et c'est intéressant, où se trouve? Vous avez remarqué dans le texte, où est Akaz? Il est à l'aqueduc. C'est le point plus vulnérable pour une ville dans un siège. Quand l'ennemi assiège une ville, à cette époque, Jérusalem n'avait pas une source d'eau à l'intérieur de la ville. Donc là, c'est sa plus grande crainte. Comment je vais protéger cette source d'eau, cet aqueduc? Et là, Dieu envoie un prophète avec un message. Ils regardent le message, verset 7. Dis-lui, sois tranquille, crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de bois fumants. Il continue, il continue après, cela n'arrivera pas, verset 7, cela n'aura pas lieu. Essayons juste de mettre, on a deux rois qui attaquent. Derrière ces deux rois, c'est encore un roi plus puissant, Assyrie. Et voilà, le prophète débarque et dit, sois tranquille, devant ces deux bouts de bois. Oh. Je demande à Jonathan si je peux faire ça. J'espère que ça va marcher. Alors, est-ce que ça fait peur? Ça fait peur à un enfant? Pas du tout, hein. Petit allumette. Et selon Ésaïe, voilà la menace. Ces deux rois, ces deux armées terribles qui débarquent devant la défaite. Et Ésaïe dit, sois tranquille, devant ces deux bouts de bois fumants. Pourquoi Ésaïe a pu dire ça? Parce qu'il savait qu'il y a un autre roi qu'il a rentré dans le chapitre précédent. Vous savez, on est Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort de roi Ozias, Ésaïe a vu le Seigneur. Je juste rappelle, l'année de la mort de roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Ésaïe savait très bien qu'il y avait un autre roi. Oui, ces deux rois, ça faisait une menace, c'était difficile, mais au-dessus de tous ces rois humains, il y avait un roi tellement grand, tellement puissant, qu'à la lumière de son perspective, depuis son trône, ces deux rois sont juste les deux bouts de bois, deux allumettes qui fume un peu et qui ne fait pas peur. Donc, sois tranquille, et après, il l'applique vraiment à ce roi Akaz. Vous voyez un certain parallèle. Il dit, certes, voyez en verset 8, Damas est à la tête de la Syrie. C'est-à-dire le pays de Syrie, c'est quoi qui contrôle? Bon, c'est la capitale, Damas. Et quelle est la tête de cette ville de Damas? Ben, c'est Retsin, le roi. Juste un être humain, faible comme les autres. Et pour la Samarie, le pays de Samarie est contrôlé par Éphraïm, est contrôlé par la Samarie, la tête d'Éphraïm et la Samarie. Alors, c'est quoi la tête de la Samarie? Bon, c'est Péka, le fils de Remalia, juste un homme. Et sous-entendu, c'est quoi la tête de la Judée? Jérusalem. Et c'est qui à la tête de Jérusalem? Le roi Akaz. Alors, vous, qu'est-ce qui compte pour vous? Vous aussi, vous êtes une allumette. Alors, qu'est-ce qui compte, Akaz? Qu'est-ce qui compte plus que tout le reste? Voilà le verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est fort, en hébreu, c'est le mot croyez et subsisterez, c'est la même racine. Si vous ne vous tenez pas à ce que ce Dieu dit, vous ne tiendrez pas devant l'ennemi. Et quel message fort, hein? La force dans nos vies se trouve où finalement? Et quelle clarté, quelle simplicité. C'est pas dans nos pouvoirs, c'est pas dans nos aqueducs, nos défenses militaires, nos armées. Selon Ésaïe, la force dans nos vies se trouve dans notre relation avec la parole du Seigneur. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Je me souviens une fois, j'ai eu un reportage, il y avait un enfant, je pense qu'il était coincé dans une voiture, il était en panique. Il y avait le parent à l'extérieur de la voiture qui essayait de calmer, et juste, si l'enfant arrivait à juste écouter son père qui parlait, juste écouter et faire confiance que son père pouvait l'aider à pousser le bouton pour faire sortir la voiture, il arriverait. Juste une confiance simple, une confiance même qu'un enfant peut avoir, est tellement plus puissant aux yeux de Dieu que toutes les ressources politiques que ce roi peut avoir. Si vous ne croyez pas, ce qui compte dans nos vies, ce qui compte quand nos cœurs sont troublés comme les arbres par le vent, c'est finalement, quelle est notre relation? Quelle est notre confiance avec ce que Dieu a dit? Et donc voilà, Ésaïe vient, et en plus, il va aider le roi à mettre sa confiance en Dieu. Ce n'est pas un piège. Je ne vais pas en dire, ok, je sais c'est difficile, mais je vais rendre les choses compliquées. Il dit, ok Akaz, je veux t'aider à mettre ta confiance, demande un signe. Demande un signe à Dieu. Alors là, on a Akaz, il est un des personnes plus privilégiées dans l'histoire. Hein. Peu de personnes ont eu cette occasion. Hein. Que Dieu vient et dit, ok, demande. Ça va être un truc grand, petit, ça va être ton prénom dans les cieux, ça va être quelque chose par terre. Essaye, parce que Dieu veut t'aider. Il veut t'aider à avoir confiance en lui. Et vous voyez la réponse d'Akaz, verset 12. Il répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est fort. Hein? Le prophète pose, il offre. Tu peux demander, Dieu va répondre, Dieu va te donner, Dieu veut t'aider à mettre ta confiance en lui. Il dit non, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Je pense qu'un commentaire l'a bien dit. Il a dit, Akaz avait déjà décidé de ne pas faire confiance à Dieu. La décision était déjà prise. Il ne s'intéressait pas à ce que Dieu pouvait dire, à ce que Dieu était vraiment. Il ne voulait pas se mêler avec ça. Il voulait un aqueduc qui était protégé, il voulait que son armée soit forte. Il avait plein d'autres soucis, et Dieu... il n'avait pas besoin de cette hypothèse, disons. Et vous voyez, on a un accomplissement d'un message triste que Dieu avait donné à Ésaïe. En chapitre 6, Dieu appelle Ésaïe le prophète pour un ministère. Il dit, Ésaïe, tu vas avoir un ministère qui n'est pas toujours facile. Tu vas dire ça en chapitre 6. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui ses yeux. C'est fort comme message. Et on voit Akaz, qui est un exemple capital parfait de cette réalité. Et pourquoi Dieu a dit ça? Hey, imagine-toi un gars ou quelqu'un, peut-être toi, et tu es invité chez un ami pour un repas de Noël le soir à 16h. Et l'après-midi, tu as un petit creux et tes enfants, ils ont laissé des gros boîtes comme ça, des bonbons Haribo, tu vois, pas cher. Tu commences à grignoter. Et après, il y a une grosse boule de pop-corn, juste parfait, et tu commences à manger ça. Après, il y a un bout de baguette de hier, un peu dur, mais disant, oh, j'ai tant faim. Et vous, tu manges. Et après, t'es vraiment, vraiment bien répu, bien satisfait. Et là, tu dis, ah mince, c'est l'heure de je suis invité là. Et donc, t'es invité, tu arrives chez ton ami, et c'est un repas extraordinaire. Ah, oh, foie gras, et le bon vin, et juste... Les huîtres, tout était préparé. Et tu as tellement mangé que même les odeurs, ça ne donne pas envie. Non, merci. Et en fait, le fait que tu refuses un repas si bon fait preuve que tu avais déjà satisfait avec les choses. Tu n'attendais pas que ton ami allait vraiment offrir un bon repas. Et vous savez, ça peut arriver sur le plan spirituel. Et c'est ça qui arrivait en Israël à cette époque. Dieu dit à Ésaïe, va prêcher cet amour. Essaye de convaincre les gens de mettre leur confiance en moi, comme le roi Akaz. Demande un signe. Dieu n'est pas dur, il est rempli de compassion, rempli d'amour. Prépare un super repas par tes paroles. Et vous savez quoi? Le peuple, ils ne vont pas avoir besoin, parce qu'ils ont déjà rempli leur vie avec d'autres choses. Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim, ils sont déjà satisfaits avec autre chose et ils ont déjà pris la décision de ne pas écouter Dieu. Et la réalité qui est troublante, c'est que si ça arrive à roi Akaz, si ça arrive à l'époque d'Israël, d'Ésaïe, ça peut nous arriver aujourd'hui. Hein. Même pendant ces fêtes de Noël. Que le vrai message de Noël... Ce que Dieu, le sens que Dieu donne à Noël, ça devient de plus en plus banal. Parce qu'on a d'autres choses dans nos vies. On a d'autres préoccupations. Et plus qu'on écoute, plus qu'on donne place à ces choses secondaires, moins ce message de grâce, de salut, d'amour de Dieu devient banal, superficiel, un peu comme le Père Noël. Un truc un peu sympa, mais culturel. Tu sais, c'est un jugement terrible. Et oh, c'est l'appel de ce texte, de réveille-toi et fais gaffe et fais attention avec ce message de Noël qui est tellement précieux. Et parce que le bon sens que dans l'autre sens, plus on écoute, plus on essaie, Seigneur, aide-moi, donne-moi cette soif, donne-moi ce faim de comprendre davantage toutes les merveilles de ce que tu as fait pour moi en Christ. Plus Dieu va donner, Dieu va répondre. Ça, c'est le cœur du roi. Mais finalement, terminons par le signe de Dieu. Et, parce que c'est quand même grave ce qui arrive là. Parce que c'est le roi, c'est la descendance de David, et le roi est à la tête du peuple. Et on voit déjà dans le livre 1 de roi, quand le roi désobéit, souvent le peuple suit. Et donc voilà, le roi, le fils de David, la maison de David, il rejette la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a plus d'espérance pour le peuple? Est-ce que Dieu sera avec le peuple, avec un roi qui rejette Dieu? rejettent sa parole. C'est ça qui est fort, on voit comme Dieu il fait encore grâce à son peuple. Et il a dit, oh, ok, maison de David, écoutez donc, tu laisses la patience des hommes, tu aussi va laisser la patience de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc Dieu va faire quelque chose. Il n'a pas besoin de toi, ô roi, et ta réponse. Dieu va quand même donner un signe. Alors quel est le signe que Dieu va donner? La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Alors ça, c'est un paradoxe. Par définition, une vierge ne va pas tomber enceinte. Il faut qu'elle soit mariée, il faut qu'elle couche avec un homme. Mais ici, la Vierge. Et je pense ici, c'est un peu symbolique, je pense qu'il fait référence à Jérusalem, le peuple fidèle sur Jérusalem. Bon, déjà, on est ici, dans le livre d'Ésaïe, c'est très imagé. Hein. Et juste quelques autres versets dans le livre. On a la fille de Zion qui est restée comme une cabane dans un champ. C'est Jérusalem comme un symbole du peuple, la fille de Zion. La cité fidèle, elle est devenue une prostituée. C'est vrai, on n'appelle pas certainement Genève une fille, hein. Pas trop l'habitude. Mais bon, ici à l'époque, c'était comme ça, hein, la fille. Ésaïe 37, la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Là, c'est la Jérusalem, la communauté, considérée comme une fille. Même à la fin du livre, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Là, ça parle de la nation comme une femme. Et je pense que c'est quand même fort ce qui arrive. Hein. Voilà le roi, il dit non, je ne vais pas demander à Dieu. Et Ésaïe dit, ok, Dieu va faire quelque chose avec le peuple, mais sans la tête. Sans toi, ô roi. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin d'une puissance politique. La Vierge sans son mari, le peuple sans le roi, va produire la vie. Et cette vie, on va appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Le peuple qui se rattache fidèlement à Dieu, Dieu va agir, Dieu va produire la vie. Et dans quelques temps, même avant que l'enfant peut parler, connaître le bien et le mal, cette menace va disparaître. Et en fait, je pense Ésaïe, lui et son fils, il a compris. Parce que regarde, dans chapitre 8, il dit, je m'approche de la prophétesse, sa femme, elle a conçu, elle a enfanté un fils, et il a donné le nom, si vous cherchez un nom pour vos enfants, hein, Maher Shala Hashpaz, qui veut dire au butin parce qu'on a gagné. Allez les gars, on a gagné. Et ma mère, mon père, apporte devant le roi Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Et là, elle était par une vierge. Il ne s'habille pas la femme d'Ésaïe. Mais je pense, eux, ils ont compris. On va être fidèle en dehors le roi. On sera fidèle à Dieu et Dieu produit la vie. Et cette vie va être un signe. Même plus tard, il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes de la fidélité de Dieu envers ce peuple. Mais Dieu est... La Bible est tellement riche. Dieu donne ces choses 700 ans avant parce qu'il y a encore un accomplissement, quelque chose encore plus grande et plus merveilleuse. Parce que vous savez, Ésaïe, est-ce qu'il était finalement parfaitement fidèle à Dieu? En Ésaïe chapitre 6, il dit devant Dieu, malheur à moi, parce que moi, j'ai les lèvres impures et j'habite parmi un peuple impur. Donc finalement, même Ésaïe, même le peuple fidèle à cette époque, ils n'étaient pas dignes d'avoir Dieu avec eux, parfaitement, finalement. Donc comment Dieu allait faire pour avoir un roi qui était vraiment parfait? C'est ça, ce dont le peuple avait besoin. Un roi, mais parfait. Un roi sans la nature pécheresse. Vous savez, ça, c'est la grande conclusion de l'Ancien Testament. Même les bons rois, ils avaient des points faibles. Tout le monde a une nature pécheresse. Ce n'est pas juste qu'on est mal élevé parce qu'il y a des problèmes. Chacun de nous, vous, moi, par nature, on est héritier d'Adam. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais digne, finalement, d'avoir Dieu parfaitement avec nous, Dieu parfaitement pour nous. Et voilà, merveille de Noël. Matthieu raconte, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait sans un homme, sans un roi humain. Il dit, il avait une jeune ado qui s'appelle Marie en Judée. Et Dieu annonce quelque chose d'extraordinaire. Et là, il dit à Joseph, fils David, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui est Dieu avec nous. Vous voyez, il y a quelque chose encore plus grand. Ce n'est pas juste à l'époque d'Ésaïe. En fait, la race humaine avait besoin d'un roi parfait qui peut rassurer que Dieu est vraiment avec nous. Un roi encore plus grand que David. Un roi parfait. Et comment ça peut avoir lieu? Parce qu'on a la nature pécheresse, c'est impossible. Alors Dieu a fait quelque chose inimaginable. Dans le ventre vide et stérile de Marie, il est venu lui-même. Et par sa pouvoir de Dieu créateur, il a créé la vie, une vie parfaite, une vie sans péché, une vie sans la nature pécheresse. Et cette vie, c'était sa vie, après Jésus, notre roi parfait, qui est finalement et parfaitement le Dieu avec nous. Et Matthieu, il aime ce thème, il commence son évangile, Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez ce que Jésus dit à la fin de l'évangile de Matthieu ? Allez, faites des disciples de toute la nation et je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Vous savez pourquoi ça peut avoir lieu, que Christ, que Dieu est avec nous? Parce que cet homme, il a pris sur nous toutes les fautes. Au milieu de l'évangile ou à la fin, sur la croix, Jésus dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu parfait, Dieu qui était toujours avec Dieu, il a été rejeté, il a été abandonné parce qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos problèmes, toute notre incrédulité sur lui. Et Dieu l'a rejeté afin que nous, en lui, puissions être acceptés. Et si vous connaissez Jésus, vous pouvez connaître que Dieu est parfaitement avec vous, avec toi, avec moi. Jésus est la seule personne qui peut finalement nous rassurer, mais qui nous donner une paix à nos cœurs, une stabilité, même quand tous les arbres de la forêt sont en train de bouger, comme pas possible dans le vent, le Dieu créateur qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, est le Dieu avec nous. Et il veut être avec toi, avec moi. Et c'est ça le sens de Noël. Et c'est ça ma question pour vous. Est-ce que vous avez saisi ça? Vous êtes quelqu'un qui vous regardez sans voir. Vous comprenez, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez les crèches, les sens, les chants, les cantiques, etc. Mais vous ne saisirez pas le vrai sens. Et là, si je vous invite, acceptez, recevez ce message, recevez ce Dieu avec vous. Dieu veut être avec toi dans tes moments de détresse, dans tes moments de stabilité, de paix, construire sur lui et accueillir Dieu, Emmanuel, avec nous. Je prie. Seigneur, merci pour Jésus, pour Noël, que la Vierge, que Marie a porté cette vie, cet enfant qui pouvait nous sauver. Et Seigneur, aide-nous à être comme Marie, qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, là où il y a des endroits dans nos cœurs où on est un peu comme Akaz, on a peut-être décidé d'avance de ne pas être à ton écoute. Seigneur, par ton esprit, libère-nous. Rends nos cœurs doux et flexibles et à ton écoute, afin que nous puissions dire qu'il me soit fait selon ta parole. Bénis-nous. au nom de Jésus. Amen.